Chers parents, garantissez la scolarité de vos enfants, quoi qu'il vous arrive, avec l'assurance éducation. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Accompagner, être à l'écoute, porter, prendre soin, laver. Lorsqu'un enfant, conjoint ou parent tombe malade, lorsqu'un proche n'a pas ou n'a plus les capacités de gérer seul son quotidien, la mère, l'épouse, le fils devient aussi l'aidant. Celui, et le plus souvent celle, qui ne compte pas ses heures pour soutenir le malade ou la personne handicapée du lever au coucher, quitte à sacrifier son parcours professionnel, ses habitudes et jusqu'à sa propre santé. Solidarité, dévouement, affection, sacrifice. Fils, soucis, inquiétudes, épuisement, tendresse. Difficile de décrire le profil de cette multitude de personnes qui se mettent au service des autres lorsque le manque d'autonomie le réclame. Il serait 11 millions en France, ou à compter de l'an prochain, de 2020, un congé indemnisé pour les aidants devrait être créé. Concilier vie professionnelle et vie personnelle, ne pas perdre pied, tenter de préserver le lien. Cette relation soignant, patient, aidant est un parcours sinueux où s'entremêlent les fragilités personnelles et dont peut jaillir le pire comme le meilleur. Les aidants, colonne vertébrale invisible des systèmes de santé, vous avez très certainement reconnu des citations de votre livre. Docteur Hélène Rossino, bonjour.
Bonjour Caroline Paré.
Parcours des aidants, témoignage poignant qu'on le retrouve dans cet ouvrage Aidants, ces invisibles, publié aux éditions de l'Observatoire. Docteur Rossino, vous êtes médecin spécialiste de santé publique et médecine sociale. Avec nous également aujourd'hui, Pascal Janot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président fondateur de la première maison des aidants, vice-président du collectif Je t'aide, directeur du Centre d'information et de formation des aidants. En fin d'émission, nous allons retrouver la chronique sport du docteur Jean-Marc Seine, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Et puis bien sûr, comme chaque jour, vos témoignages, vos questions, on les attend sur la page Facebook de l'émission et à notre numéro 33 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Hélène Rossino, le titre de votre livre associe le terme d'aidant à l'adjectif invisible au pluriel. Ils sont invisibles aux yeux de qui ?
Aux yeux de tout le monde, y compris parfois d'eux-mêmes. C'est très difficile pour les aidants de réaliser qu'ils ont cette casquette d'aidant parce que cela paraît quasiment naturel ou normal, même si je n'aime pas du tout ce terme, de prendre soin d'un proche. Et que dans les derniers sondages, par exemple en France l'année dernière, on se rendait compte que 63% des aidants ne savaient pas qu'ils étaient aidants. Et c'est la même chose vraiment à l'international, dans tous les pays. Tous les aidants que j'ai pu rencontrer, une grande majorité d'entre eux n'avaient pas conscience qu'ils jouaient un rôle particulier et qu'ils pouvaient avoir des droits particuliers, mais aussi des problématiques particulières de santé qui pouvaient les concerner.
Ça dépend de quoi de devenir aidant ? Ça arrive dès l'annonce du diagnostic ou c'est à partir du moment où on passe beaucoup de temps, j'ai envie de dire qu'on sacrifie, même si c'est pas un sacrifice, où on donne beaucoup de temps à l'autre ?
Encore une fois, ça dépend des situations. C'est toute la problématique de ce sujet. Il y a une multitude de situations différentes. Pour moi, on devient aidant à partir du moment où on commence à accompagner son proche. Ça peut commencer tout à fait au diagnostic, quand on va réorganiser sa vie, quand on va changer son quotidien, quand on va faire des actes, par exemple, des actes d'aide-soignante ou des actes d'infirmière, quand on va laver son proche, bref, quand on va sortir de la relation qu'on a habituellement avec ce proche.
Alors, chiffre de 11 millions de personnes pour la France, que vous citez dans votre livre, toutes celles et ceux qui se mettent plus ou moins naturellement au service d'un proche. Votre association, Pascal Janot, pointe aussi cette réalité, ce terme d'invisible, vous aussi, vous vous reconnaissez en cet adjectif ?
Bien sûr, 11 millions d'aidants, c'est le chiffre aujourd'hui qui est identifié. Il y a 10 ans, lorsque 11 ans maintenant, lorsque j'ai créé la première maison des aidants, le terme d'aidant en France était inconnu. On a une progression sur, on vient de le dire, sur l'identification du rôle d'aidant, qui a été progressive, mais qui depuis voilà quelques années maintenant et encore plus récemment depuis 3 ans, On a eu un premier gouvernement qui a permis d'identifier au travers de la loi ASV, la loi d'adaptation de la société au vieillissement, le terme d'aidant et une définition. Bon, je crois que c'est important dans le débat de commencer, c'est de voilà de repréciser, on vient de dire, 60% des personnes n'identifient pas le terme d'aidant. En fait, on a aujourd'hui sur ces 11 millions d'aidants, quatre catégories hein, d'aidants. On a d'abord les parents aidant leur enfant atteint d'une pathologie, atteint d'un handicap. Et puis les conjoints aidants, accompagnant leur épouse ou leur époux pour à peu près les mêmes raisons. Et puis un groupe beaucoup plus important aujourd'hui, que sont les enfants aidant leurs parents âgés. Sur les 11 millions d'aidants, on considère qu'à peu près 7 à 8 millions d'aidants sont des aidants qui accompagnent leur père ou leur mère atteints de différents handicaps liés notamment à la perte d'autonomie. Donc on voit que ce nombre d'aidants aujourd'hui est précis. Une définition est officialisée au travers donc de différentes lois. Et vous le disiez plus récemment, le congé de proche aidant, dont on parlera sans doute plus tard, qui concerne les salariés aidants, est enfin indemnisé. Et c'est tout récent, puisque c'était la semaine passée que l'information est
tombée. L'information, mesure prévue pour 2020. Justement, quel regard est-ce que vous portez sur cette mesure? Est-ce que ça montre vraiment que les choses sont changées? Puis finalement, peut-être que cette invisibilité, elle est en train de s'atténuer davantage de visibilité. D'abord, vous, votre réaction, docteur Hélène Rossino?
Alors, je pense qu'effectivement, cette invisibilité est en train de diminuer un tout petit peu. C'est intéressant d'entendre que le congé proche aidant va être indemnisé. Encore une fois, c'était une annonce. Hein. J'attends de voir dans les faits ce qui va passer dans la loi. Ce qui m'intéresse, c'est aussi la durée de ce congé. Parce que beaucoup de situations sont des situations chroniques sur le long terme. Or, on sait très bien qu'on va pas pouvoir indemniser ces congés pendant des années et des années. Donc, l'indemniser pendant, par exemple, si on garde ce qui existe aujourd'hui, pendant 3 mois renouvelables jusqu'à un an dans la carrière du salarié, c'est bien, mais ça reste un outil utile de manière très ponctuelle. Or, que ce soit question de handicap, question de cancer, par exemple, de maladie chronique ou même de vieillissement, la situation se pose sur des termes beaucoup plus longs. Donc, pour moi, c'est un outil et il est important qu'il existe, mais il ne faut pas que ce soit le seul outil qu'on développe et que moi, j'ai très peur que les politiques l'utilisent en disant, bah voilà, regardez, on a mis une enveloppe sur la table, très importante, parce que sortir de l'argent, c'est bien, c'est un symbole, mais que ce soit du coup une des seules choses qu'on va faire. Alors que pour moi, l'important, c'est aussi de non seulement changer le regard sur la société, mais de former les professionnels de santé, de rembourser la prévention, de prendre en charge ces aidants de A à Z, et c'est pas seulement de leur fournir un seul outil.
Certains d'entre eux, d'ailleurs, qui se substituent, hein, Pascal Janot, à certains soignants, on peut le dire, certains accompagnants qui devraient être rémunérés.
Alors, moi, je suis ravi que ce soit enfin un médecin qui se soit attaqué en partie, et notamment au travers de l'excellent livre, je dois le reconnaître.
Merci. Avec beaucoup de témoignages, beaucoup de sensibilité.
Avec beaucoup de témoignages, beaucoup de sensibilité, avec une approche qui correspond à celle qui est la nôtre depuis maintenant 11 ans. On a un système de santé en France qui est éminemment pervers pour tout un ensemble de raisons. Mais quand je disais précédemment que j'étais ravi qu'un médecin enfin soit penché sur le problème, c'est qu'on a un problème important en France. On a une foultitude de professionnels qui travaillent, qui devraient travailler de concert avec les aidants. Et en fait, les uns et les autres se méconnaissent absolument.
Manque de concertation.
Manque de concertation, manque de partenariat. Et quand on interroge les aidants, une des premières demandes qu'ils demandent, c'est on souhaiterait être reconnu dans notre rôle. Et quand ils disent on souhaiterait être reconnu dans notre rôle, c'est être reconnu notamment par alors la société tout entière. On a vu qu'il y a des briques qui commencent à se mettre en place, mais par les professionnels, par les institutions, par les structures. Et là, on a un problème énorme et un chantier vaste. Rendez-vous compte, si on prend l'ensemble des professionnels du champ social, médico-social, et les professionnels de santé sur le champ sanitaire, ou pas d'ailleurs, aucune des formations initiales, aucun des référentiels métiers ne tient compte encore aujourd'hui de la thématique des aidants. On est devant donc un problème aigu. Les professionnels de santé méconnaissent les aidants Et les aidants sont souvent dans un processus éminemment complexe, un système de santé complexe, des professionnels disparates et différents dans leurs compétences, et beaucoup croisent ou ne croisent pas d'ailleurs ces différents professionnels, parce que c'est très compliqué de faire la différence parfois entre une aide-soignante, une auxiliaire de vie, une infirmière, et la liste pourrait être encore très longue. Pour terminer sur ce point, je disais qu'on était dans un système éminemment pervers, dans la mesure où la prise en charge, financée au travers de des différents systèmes. Prenons l'exemple d'une personne, un aidant s'occupant d'une personne âgée. Aujourd'hui, on a une allocation personnalisée à l'autonomie qui permet de financer, si on est large, 2-3 heures dans la journée. Un service de soins infirmiers qui interviendrait peut être financé à hauteur d'une demi-heure ou une heure par journée. Une journée faisant 24 heures, on a donc un delta de 20 heures pendant lesquelles l'aidant est confronté au même problème qu'un professionnel qui lui a été formé et donc a acquis une compétence. Et on a donc des aidants qui sont obligés, à cause de ce système qui ne finance pas suffisamment la prise en charge, à être obligés de faire un certain nombre de soins techniques, de l'ordre donc de la nomenclature médicale, avec un exercice quasi permanent de l'exercice illégal de la médecine. Mm-mm. Alors, ils sont confrontés à cette obligation très souvent parce que les soins continuent au-delà de la présence des professionnels.
Docteur Hélène Rossineau, je me tourne vers vous. D'ailleurs, c'est un aspect que j'ai pas lu dans votre livre. Certains aidants qui se retrouvent quasiment en tant que coordinateurs de soins quand ils doivent jongler avec différentes spécialités et même des fois prendre de leur propre chef la décision. Là, il y a un problème de peau, j'ai appelé le dermato. Là, il y a un problème de vue, j'ai appelé l'ophtalmo. Parce que tout ça n'est pas particulièrement pour les maladies chroniques pris en charge dans le cadre hospitalier. Et quand on se tourne vers l'hôpital, les délais sont tellement longs qu'on doit jongler avec la médecine de ville, etc. Et ça donne une surresponsabilité curative de cet aidant.
Oui, tout à fait. C'est ce que j'avais appelé la veille administrative et la coordination des soins en ville-hôpital. C'est extrêmement compliqué quand on est aidant de jongler avec tout ça. Et je pense qu'on l'a dans tous les pays qui nous écoutent et pas seulement en France. Dans les témoignages que j'ai pu avoir, effectivement, c'est très difficile de devoir se retrouver entre plusieurs médecins, avec l'hôpital, avec parfois des aides. Il faut faire le chauffeur, trouver un moyen d'amener le patient jusqu'à ses médecins aussi, une fois qu'on a réussi à trouver un rendez-vous. On ne sait pas forcément ce qui existe, ce à quoi a droit le patient ou pas. Donc c'est effectivement un stress supplémentaire pour l'aidant. C'est pour ça que je parlais justement du parcours de l'aidant et de l'importance que... Là, je rejoins monsieur, que les professionnels de santé soient formés à la question, parce qu'il est important, il est même primordial, d'accompagner l'aidant et de ne pas le laisser seul dans un labyrinthe administratif et médico-social complet.
Et de bien connaître ses besoins. Alors, exactement. Tout de suite, un témoignage dans Priorité Santé. Un échange que nous avons enregistré avec vous, Madame Seck, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente de l'ANAMAN, une nouvelle association dédiée à l'accompagnement notamment des aidants au Sénégal. On va en reparler tout à l'heure. Avant de revenir sur ces actions, sur ces activités, Madame Seck, nous allons partir, si vous le voulez bien, de votre expérience personnelle. Vous vous définissez vous-même comme aidante. Est-ce que ce terme vous convient ?
Je n'en ai pas trouvé d'autre. Je n'en ai pas trouvé d'autre, donc j'ai pris celui que l'association a présenté comme personne devant accompagner les personnes malades d'Alzheimer.
Vous êtes épouse, vous êtes donc devenue aidante. Comment ça s'est passé justement ce cheminement?
Alors ce cheminement, si je peux le synthétiser, c'est un trépied. Dans ce cheminement, il y a un avant, il y a un après et il y a également un bitume que j'ai qualifié de dénis. J'avais épousé un homme superbement intelligent, et j'ai cherché sur ça, en me disant, son corps va vieillir comme tous les hommes, comme même toutes les femmes, mais enfin, je resterai tributaire de son intelligence, et ça ne vieillit pas. Et le destin m'a fait un pied de nez, parce que je me suis rendu compte que le cerveau vieillit bien, et le sien a vieilli mal. Pendant tout le temps où il a commencé ses crises, des crises de larmes, un peu de prostration, refus de manger. Ma vie professionnelle et ce que je connaissais de cet homme, ce que j'ai vécu avec cet homme pendant un quart de siècle, m'ont fait refuser la maladie.
Vous parliez tout à l'heure de cet homme très intelligent, que vous aimiez passionnément, un lien très précieux qui vous unit, Madame Seck. Est-ce que vous avez l'impression que la maladie a d'une certaine manière abîmé votre relation, ou simplement, ou difficilement, que ses rôles ont changé?
Ses rôles ont changé parce que maintenant je suis plutôt une maman qu'une épouse. Mais je ne regrette pas de jouer ce rôle parce que cet homme mérite que je reste là et que je joue ce rôle avec lui d'être sa mère. Comme je vous dis, il ne sait même plus comment je m'appelle.
Vous êtes assistée, Madame Seck, par d'autres personnes, des proches, des soignants?
Oui, parce que j'ai trouvé un infirmier qui est là dans la journée. Mais le soir, je suis seule. Et nous étions en poste avec une nounou avec laquelle il a vécu pendant 12 ans. C'est l'unique personne dont il se souvient du nom.
Est-ce que votre rôle aux côtés de votre époux, hein, on l'a compris, que vous accompagnez toute la journée, est-ce que ce rôle vous permet d'avoir d'autres activités?
Ah non, c'est fini. J'avais essayé, mais j'ai dû arrêter. C'est pas possible.
Est-ce que vous savez aujourd'hui ce qui vous manque en tant qu'aidante? Vous êtes aux côtés de votre mari, vous l'avez dit, il ne se souvient plus de votre prénom, Madame Seck. Qu'est-ce qui vous manque pour que cet accompagnement se passe mieux?
Je ne saurais pas répondre à cette question. Parce que je me suis tellement installée dans cette situation que même la personne qui est censée m'aider dans la journée, je suis obligée d'interférer. Parce que quand il y a les crises de nerfs, quand il y a un peu de violence, je suis obligée de faire tampon. Entre parfois, c'est moi qui reçois les coups.
Est-ce que vous vous donnez le droit de dire « j'en ai assez, j'en ai marre » ou est-ce que ce lien qui vous unit à votre époux vous en empêche parce que finalement vous interdisez des choses par respect?
Jamais je n'ai baissé les bras en me disant « ça suffit, je n'y arrive plus ». Parce que quand il fait ses crises, une fois que les crises sont passées, il ne se souvient pas. Mais je pense que quelque part dans sa tête, il se rend compte qu'il est allé trop loin. Et ça, je le sens. Maintenant, je me suis vraiment installée dans sa maladie.
Vous êtes installée, mais vous trouvez l'occasion aussi de vous écouter vous-même, d'en parler avec d'autres personnes, d'avoir un petit peu vos droits à vous?
C'est pour ça, justement, que, entre autres raisons du montage de cette association Anaman, il y a ce désir des praticiens de ces différentes pathologies de trouver les voies et moyens de se rapprocher des personnes qui s'occupent de ces malades, pour essayer de voir comment leur alléger un petit peu ce travail.
Ces maladies, ce sont des pathologies neurodégénératives, Alzheimer et associés. Justement, qui a eu l'initiative de créer cette association qui met, on l'a compris, l'accent non seulement sur ce que vivent les patients, mais aussi sur ce que font et ce que ressentent les aidants?
Moi, ce que j'en sais, c'est que c'est un neuropsychiatre qui assure le suivi de la maladie de mon mari. Et il m'a appelé il y a peut-être 6 ou 7 mois en me disant « Madame Seck, vraiment, vous accompagnez votre mari de belle manière. J'ai un projet, c'est celui de monter une association nationale avec les praticiens des pathologies neurodégénératives et je souhaiterais quand même que vous puissiez vous joindre à nous pour que vous puissiez expliquer votre vécu. J'ai surtout attiré leur attention sur le fait qu'il y a une méconnaissance totale de la maladie. Moi, il y a 2 choses qui me gênent. Il y a le fait que les praticiens ne communiquent pas assez sur la maladie. Et puis la deuxième chose, on ne prend pas en compte la souffrance des personnes qui sont derrière et qui aident.
En tout cas, on vous remercie beaucoup. Hein. Merci beaucoup pour ce témoignage et merci pour votre action. Madame Seck, excellente journée à vous à Dakar.
Priorité santé sur RFI.
Votre réaction après ce témoignage, docteur Hélène Rossino, on l'a entendu, une problématique internationale, hein, compte tenu notamment du vieillissement de la population. Vous l'écrivez, 647 millions de personnes dans le monde en âge de travailler qui sont des prestataires de soins non rémunérés.
Tout à fait. Et encore, je le reprécise, ce sont des personnes en âge de travailler. Ça signifie qu'on ne compte pas les personnes qui sont déjà retraitées ou qui sont mineures et qui ne sont techniquement pas encore en âge de travailler. Donc le chiffre est beaucoup plus large que ça. L'important à retenir sur ce chiffre, c'est que sur ces 647 millions, 606 millions sont des femmes. On l'a un tout petit peu évoqué tout à l'heure, les aidants sont majoritairement des aidantes.
Et ce n'est pas parce qu'on est dans une société qui traditionnellement aide, hein, peut-être plus aujourd'hui dans certains pays du Sud que d'autres, que le ressenti n'est pas exactement le même. C'est exactement la même chose, on vient de l'entendre à l'instant.
Tout à fait, en écoutant ce témoignage, d'ailleurs j'en avais des frissons... C'est le même témoignage que ceux qu'on entend en France, que ceux que j'ai pu entendre aux États-Unis ou en Australie. exactement les mêmes mots, exactement les mêmes ressentis et exactement les mêmes problématiques. Plus de possibilités de travailler, des professionnels de santé qui ignorent les familles et ne communiquent pas avec elles, un vrai manque d'organisation, une femme, une aidante ici qui ne s'écoute pas et qui prend sur elle pour rester aux côtés de son proche parce que c'est par amour et par devoir, entre guillemets, et qui aurait bien besoin, je pense, de pouvoir en discuter avec une infirmière ou un médecin, en tout cas pour prendre en charge sa propre santé, parce que j'ai peur malheureusement que dans beaucoup de cas comme celui-ci, ses aidants fatiguent et finissent à un moment par craquer, même si on entend bien qu'elle veut prendre sur elle et qu'elle veut continuer. C'est comme ça en général qu'on arrive au burn-out et aux aidants qui explosent en vol. Donc j'aurais tendance à lui dire bravo et merci madame, mais prenez soin de vous quand même, c'est extrêmement important.
Et aussi le relais associatif, hein, c'est quelque chose dans lequel vous reconnaissez, Pascal Janot, cette société civile, ces associations qui s'emparent du chantier, on disait tout à l'heure, des mesures gouvernementales en France, les associations n'ont pas attendu les mesures gouvernementales.
Ça fait 10 ans à peu près en France que les associations, la société civile s'intéressent à la thématique des aidants. Je disais précédemment, la première maison des aidants en 2008, la première journée nationale des aidants en 2010, et qui est renouvelée d'ailleurs depuis, qui est portée aujourd'hui par le collectif Je t'aide, dont je suis le vice-président. Cette année d'ailleurs, au passage, la thématique de cette journée nationale des aidants qui a lieu chaque 6 octobre depuis maintenant 10 ans, portera sur la précarité des aidants. Et quand on dit précarité, on entend le témoignage de cette dame qui aurait pu être d'ailleurs à Paris, à Rennes, à Bordeaux, parce que on a retrouvé, et Hélène Rossineau le disait à l'instant, hein, on retrouve typiquement le témoignage, puisqu'il y a quasiment tout, ce témoignage est excellent, puisqu'il y a, tout. Il y a également notamment la thématique des salariés aidants. Hein. On évoquait tout à l'heure congé de proche aidant. Les salariés aidants, quand même, hein, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est un aidant qui, le matin, avant de partir au bureau, a souvent passé une nuit difficile parce qu'il s'est occupé de son proche. Il va à son bureau parce que il tient à continuer de travailler. C'est un véritable poumon social pour les salariés aidants. Sauf que pendant cette journée de travail, il est préoccupé. Hein, on parle de présentéisme très souvent. Il est préoccupé par, effectivement, la difficulté qu'il a à distance d'avoir à coordonner l'ensemble des prestataires ou des personnes qui vont intervenir à domicile. On parle souvent d'ailleurs de ces aidants comme de chefs d'entreprise. Hein. On évoquait tout à l'heure, il y a jusqu'à 4-5 personnes en moyenne par jour qui passent au sein d'un domicile. Donc il faut coordonner à distance. Il faut trouver des aides, il faut trouver des solutions. Et ce congé de proche aidant, hein, puisque cette dame était une salariée aidante, elle a d'ailleurs dû, si j'ai bien compris le témoignage, elle a dû s'arrêter de travailler pour continuer à s'occuper de son
mari. Arrivé à l'âge de la retraite, bon, les choses se sont enchaînées.
Ça tombait bien. Mais on a aujourd'hui en France des aidants, des salariés aidants qui doivent ou réduire leur activité professionnelle ou la cesser pour partie et donc générer cette précarité en question. Quand on sait qu'aujourd'hui 70% quasiment des responsables de ressources humaines au sein des entreprises ne sont pas au courant de la problématique d'aidants de leurs collaborateurs, on voit à quel point le travail est long encore à mettre en place. Et donc ces associations, depuis 10 ans, travaillent sur tout un ensemble de solutions, d'accompagnement, de soutien. On est à côté des aidants, d'information et de formation.
Si vous le voulez bien, je vais vous interrompre. On va tout de suite donner la parole à d'autres témoins, d'autres questions dans Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Premier auditeur à nous joindre en ligne de Guinée-Bissau, de Bissau précisément, c'est Fodé Moussa. Fodé Moussa, bonjour.
Bonjour Madame Caroline.
Nous sommes à votre écoute, allez-y Fodé Moussa.
Bonjour à tous.
Bonjour.
J'ai vécu une expérience concernant l'aide qu'on apporte à une personne quand elle est malade. Et je vais témoigner cette expérience sur cette émission que je salue d'ailleurs. Car c'est grâce à l'émission Priorité Santé de la RFI que j'ai connu pour la première fois le nom de la maladie dont ma maman avait. Ça, c'était entre parenthèses. C'était un jour, on m'a informé que ma maman est malade. Lorsque j'ai appris cette nouvelle, j'ai décidé de la rejoindre. Du coup, elle m'a appelé en me rassurant de l'amélioration de son état. Que tout va bien, c'est juste une petite crise, mais maintenant ça va.
Faudemoussa, vous pouvez nous dire le nom de la maladie dont souffre votre mère?
Je m'attendais vraiment à cela, c'est l'épilepsie.
C'est de l'épilepsie, d'accord.
Oui, oui. Ces phrases m'ont soulagé et puis j'ai renoncé à mon voyage. Après un temps, un membre de la famille m'appelle, me disant que tout ce que maman me disait sur son état sanitaire n'est qu'une façon de me donner le moral. Pour ne pas que j'abandonne mes études, que sinon elle est gravement malade. Cette fois-ci, j'ai immédiatement préparé mon voyage pour la rejoindre au même jour, sans prendre contact avec mes encadreurs ni avec mes amis pour les mettre au courant de mon voyage. Elle qui était tout le temps stressée d'après ce qu'on m'a raconté, les gens étaient vraiment stupéfaits de l'accueil chaleureux qu'elle m'avait réservé. Un accueil accompagné de joie, de sourire. Et puis, elle n'a pas manqué aussi à me dire, malgré l'aide que les proches lui apportaient, le trou que mon absence a vraiment laissé. Quoi. Après quelques temps auprès d'elle, je m'en suis rendu compte qu'elle n'était pas écoutée. Parce que les autres pensaient que sa maladie n'avait pas sa place à l'hôpital. Pour eux, elle devrait se rendre chez les médecins traditionnels qu'à l'hôpital. Voilà pourquoi elle avait besoin de moi, qui peut la comprendre, et transmettre aux médecins tout ce que les autres refusaient de transmettre de sa part. Ces aidants ne refusaient pas parce qu'ils veulent le refuser, mais plutôt c'est parce qu'ils ignoraient vraiment la place de cette maladie à l'hôpital.
Ils n'avaient pas l'information, ils n'avaient pas toutes les données pour savoir que eh bien, l'épilepsie, c'est une maladie neurologique qui se traite avec des médicaments, des choses particulières pour calmer les crises, c'est ça?
Évidemment. J'ai réussi quand même à l'écouter, parce que quand une personne est malade, elle se plaint beaucoup. J'ai mal ici, c'est ce qui me fait mal, voilà, aujourd'hui, ce que je ressens comme douleur. Et j'ai réussi à l'écouter et à transmettre ses ressentiments au médecin en lui redonnant le moral jusqu'à 3 mois après. Après, elle a rendu l'âme par la volonté de Dieu. Mais avant qu'elle ne rende l'âme, elle me disait tout le temps que ma présence lui a vraiment soulagé sur le plan psychologique.
Faudemoussa, vous faites des études en quoi? Vous avez repris vos études?
Oui, ouais, j'ai repris et j'ai déjà achevé.
Et vous êtes professionnel, étudiant en quoi aujourd'hui?
Oui, maintenant là, je suis sur le point de la recherche d'emploi.
Mais vos études, elles étaient spécialisées dans quel domaine?
Je me suis spécialisé en sociologie.
Oui, parce que quand on vous entend, on entend le chemin parcouru, on entend votre écoute et le cœur que vous avez mis à accompagner votre maman, c'est un témoignage, il n'y a pas de question. Et en tout cas, on vous souhaite une excellente journée parce que c'était un très très beau témoignage. On vous souhaite une excellente journée à Bissau. Merci beaucoup pour nous avoir raconté cette histoire. Et on va partir pour Douala. Je disais tout à l'heure, docteur Rossino, quand on vous lit, témoignage poignant, parce que ça touche au cœur, parce que il y a tellement de générosité. Le mot dévouement, il peut être dévoilé. Mais là, il n'est pas dévoyé. Parce que le terme de sacrifice, j'aime pas parce qu'on a l'impression qu'on laisse quelque chose sur le bord et qu'on donne de soi-même à contre-cœur. Non, là, il y a du dévouement et de l'amour pur, quoi.
Exactement. Être aidant, c'est aussi profondément humain. Et c'est pour ça que tous ces témoignages me touchent énormément, y compris celui de M. Faudemoussa, qui met en lumière une problématique qu'on connaît encore mal. Elle commence à avancer un peu en France, mais dans une grande partie de la planète, on la connaît très mal. C'est celle des jeunes aidants. Parce que monsieur a dû arrêter ses études, il a tout abandonné pour prendre soin de sa maman. Et souvent, le fait d'arrêter ses études ou d'arrêter sa scolarité ou en tout cas de changer les emplois du temps, etc., a un vrai impact sur l'avenir de ces jeunes qui arrêtent tout pour venir prendre soin d'un de leurs proches. Et j'aimerais rendre hommage justement à monsieur et à cet acte que je trouve magnifique d'être rentré et d'avoir pris cette place, d'avoir permis de faire l'intermédiaire avec les médecins, parce que c'est extrêmement important, et surtout d'avoir été aux côtés de sa maman et de l'avoir soulagée pendant ses derniers mois de vie.
Qui est resté avec elle jusqu'au bout, et c'est quelque chose qu'il ne regrette pas, même s'il a laissé les études, là, c'est quelque chose qui a renforcé
son parcours.
Exactement,
et je suis très heureuse qu'il ait pu reprendre ses études après.
On va retrouver au Cameroun, à Douala, Berthe, une auditrice, pour un autre témoignage. Bonjour Berthe.
Bonjour, bonjour à vous, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Nous sommes à votre écoute, allez-y.
Oui, en fait, en ce qui me concerne, j'ai contracté la tuberculose en 2013, alors que j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Et pendant la grossesse, on n'a pas vite diagnostiqué la tuberculose. On ne savait pas exactement de quoi je souffrais. C'est seulement après l'accouchement qu'on a découvert que c'était la tuberculose. Et la maladie avait déjà pris l'espace et c'est vraiment amoché. Et je n'arrivais plus à rien faire. Mais heureusement, mon mari était là. C'est lui qui s'est occupé de moi. Il se levait tous les quatre pour me donner mon bain, également le bain de l'enfant et du grand frère de la petite. Il nous lavait donc tous les matins et à 5 heures, il fallait qu'on prenne les médicaments parce que la petite avait aussi été mise sous traitement. Et à 8 heures, il fallait prendre le petit déjeuner. Et c'est seulement à 7 heures qu'il allait au travail. Et pendant sa journée de travail, ce n'était pas facile parce que tout son cœur était à la maison. Il quittait le travail à 16 heures pour revenir à la maison. Et ça n'a pas été facile pour lui parce qu'il était plus productif au niveau de son travail. Et quelques temps après, ses collègues ont commencé à l'accuser auprès de son chef qui n'était pas sur place. Et finalement, il a décidé d'arrêter le travail pour se sacrifier et prendre soin de nous pendant tout ce temps. Il l'a fait pendant au moins un an. Il s'est occupé de nous jour pour jour. Il était là pour nous donner tout ce dont on avait besoin. Il m'accompagnait à l'hôpital jusqu'à ce que je me remette.
Aujourd'hui, Berthe, vous allez bien? Votre bébé va bien? Comment ça se passe pour votre mari? Il a pu retrouver un travail?
Quelques mois après, donc après une année, il a essayé de chercher encore du travail. Il a heureusement retrouvé du travail.
Et cette aide que vous a apporté votre époux, vous avez l'impression que cela a renforcé votre lien? Aujourd'hui, vous êtes plus unis qu'auparavant, qu'avant la maladie, qu'avant l'épreuve et surtout qu'avant cet extraordinaire soin qu'il a apporté à vous et à vos deux enfants?
Oui, tout à fait. Je suis véritablement reconnaissante de ce qu'il a fait. Et en fait, c'est un sacrifice qu'il a fait. Il aurait pu dire qu'il va continuer à travailler pour être productif, mais il s'est sacrifié pour prendre soin de nous.
Vous en parlez aujourd'hui avec lui?
Oui, il est d'ailleurs à l'écoute.
Il est à l'écoute. Eh bien, s'il est à l'écoute, moi, j'ai qu'un mot à dire, c'est bravo. Docteur Hélène Rossino, encore un témoignage, encore une fois, à chaque fois poignant, parce que c'est des personnes, quand elles se sont sorties de l'épreuve et qu'elles ont eu justement cet entourage, on a envie de dire, ces bras douillets qui étaient là pour les aider, non seulement pour les soigner. La tuberculose, c'est les médicaments, c'est les traitements, c'est quelque chose de très lourd, mais aussi pour sentir cette présence, c'est indispensable.
Tout à fait. Et moi, je retiens cette expression que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup touchée. Il laissait son cœur à la maison en allant travailler. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans l'émission, que les aidants avaient parfois du mal à être concentrés au travail et que c'était pour ça qu'il était important de discuter aussi avec les employeurs de la question, parce que ce sont des situations très particulières. Et je trouve qu'il n'y a pas de meilleure expression que de dire « j'ai laissé mon cœur à la maison en allant travailler », parce que oui, on pense aux proches qu'on a laissés à la maison, on s'inquiète pour lui et on a envie de retourner à ses côtés. Mais on le voit bien, cet arrêt de travail risque aussi de faire plonger toute la famille dans la précarité. Donc c'est important de trouver des mécanismes qui permettent de concilier les deux.
Ben merci beaucoup pour ce témoignage. Merci
beaucoup, madame.
Berthe. Très bonne journée à vous. En tout cas, on dit en parler à son employeur, Pascal Jeannot. Est-ce qu'il peut y avoir des cas, justement, où l'employeur n'est pas à l'écoute?
Je rebondirais sur le terme sacrifié. On est là également sur un sentiment souvent vécu de la part des aidants et cette notion de sacrifice. C'est là où justement les associations et les différents professionnels devraient pouvoir être en mesure de mesurer justement cette notion de sacrifice. Parce que un aidant ne peut pas tout faire. Et très souvent, c'est ce que les aidants imaginent, qu'ils sont seuls à savoir, seuls à être capables de s'occuper de leurs proches. Alors certes, ils sont les seuls à posséder l'expérience de leurs proches.
La difficulté de déléguer.
C'est incontestable. Mais on a évoqué un certain nombre de sentiments tout à l'heure. Vous voyez, au travers du mot sacrifice, il y a aussi peut-être un terme de culpabilité qui peut y avoir également. Je trouve pas ça, moi, qu'un aidant se sacrifie.
Mais là, c'était le ressenti de la personne qui a été aidée. Elle considère que son mari s'est en quelque sorte sacrifié pour elle.
Alors, son mari, sans doute, était peut-être, et je le souhaite pour lui, dans une approche ou une lecture un petit peu différente. Néanmoins, voilà, ce terme est souvent présent. Et donc, voilà, ces aidants ne peuvent pas tout faire. Et vous parliez de délégation tout à l'heure. Effectivement, un des problèmes rencontrés, et notamment de la part des professionnels de santé, qui aimeraient bien pouvoir parfois partager certaines choses avec les aidants. Mais en fait, ces aidants, voilà, je suis seul à mieux connaître mon proche, je suis donc le seul à être capable de m'occuper de mon proche, et donc je ne délègue pas. Et on arrive donc à des situations d'aidants qui sont dans une forme de surenchère, qui va générer du stress, de l'anxiété, de l'angoisse, une dégradation de leur santé, une relation d'ailleurs avec leurs proches souvent qui va se dégrader également, parce que ils n'osent pas, parce qu'ils ne veulent pas déléguer. Et là, on a un véritable problème. Je reviens à cette notion de connaissance et de reconnaissance des uns et des autres, qui me paraît déterminante.
Avec parfois la décision difficile à prendre, c'est quand on n'est plus capable justement de gérer ça, et que là, on va se tourner, par exemple, vers, quand c'est une personne âgée, une structure d'accueil, une structure parfois de soins, Pascal Janot, là, on peut dire que la culpabilité, elle peut être vraiment énorme, de dire... Ben, je l'abandonne, ce sentiment qui est faux, encore une fois, je le dis bien, hein. Mais c'est ce que pensent certaines personnes.
On est aujourd'hui en France, notamment dans une lecture en termes de santé publique, du maintien à domicile à outrance.
Oui, mais en même temps, il y a tout le débat sur les EHPAD, sur les structures pour les personnes âgées. On dit que les vieux, je m'excuse de dire ça, mais c'est souvent ce qui se dit en Afrique, les vieux, ils sont mal accueillis. Donc, on n'a pas forcément envie d'aller accompagner son père, sa mère dans une structure où il risque l'incontinence, où il risque de se retrouver seul ou de pas qu'il y ait personne quand il appuie sur la sonnette.
Alors, il y a deux niveaux de lecture. Il y a celui qui est médiatiquement imposé, où les EHPAD, par définition, c'est pas bien.
Je parle de
ce qu'on entend la plupart du temps. Moi, je vous cache pas, aujourd'hui, si j'avais 85 ans, 86 ans, qui est à peu près l'âge d'entrée d'entrée en maison de retraite, j'aurais une sacrée trouille, compte tenu du discours qui est tenu. Alors, si ce discours pouvait être tenu il y a encore, 10 ans, 15 ans.
Les choses changent d'après vous ?
Bien sûr que les choses ont considérablement évolué. Vous savez, aujourd'hui, certains observateurs vont jusqu'à dire que la prise en charge, la prise en soin en EHPAD aujourd'hui peut être supérieure en termes de qualité à ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans le cadre du maintien à domicile. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais voilà une réalité. Maintenant, évidemment qu'on préfère vieillir chez soi, dans son environnement, rien de plus naturel. Sauf qu'à un moment donné, il y a un véritable choix à faire entre imposer à des aidants un rôle qui dépasse l'entendement, où ils sont obligés, parce que leurs proches, ayant atteint un niveau de dépendance important, ou un niveau de handicap important, ou même un niveau sur le plan pathologique important, le fait de faire le choix du maintien à domicile propulse les aidants dans l'obligation de faire des soins techniques qui dépassent évidemment leurs compétences. Et là, il est important aujourd'hui d'essayer de redresser un petit peu cette barre, d'essayer de faire un peu moins peur au grand public par rapport aux EHPAD, où ça se passe pas si mal que ça, et même plutôt mieux qu'à une période, c'est une certitude.
Docteur Hélène Rossino, j'aimerais, parce qu'on arrive déjà à la conclusion, revenir à un terme que vous développez dans votre livre, qu'on entend d'ailleurs dans tout ce qui s'écrit, de ce qui se dit au sujet des aidants, c'est le droit au répit, aider jusqu'à tomber malade, justement pour ne pas en arriver là. Ce droit au répit, qu'est-ce que c'est ?
Alors c'est l'idée que on puisse offrir, entre guillemets, un petit moment de pause ou de répit aux aidants. Ça s'organise de plein de manières différentes. Ça peut être, par exemple, un accueil de jour pour les patients avec la maladie d'Alzheimer. L'aidant va déposer le patient qui va passer sa journée dans un hôpital et venir récupérer le patient le soir. Et comme ça, lui peut aller travailler. Ça peut être un accueil qui fait la nuit aussi pendant quelques jours, dans certains endroits, voire même dans des EHPAD qui peuvent faire de l'accueil temporaire. Ça peut être aussi des initiatives qu'on voit arriver du Québec, de relayage, c'est-à-dire de personnes qui vont venir au domicile partagé entre le patient et l'aidant pour prendre la place de l'aidant pendant quelques jours.
Ce que vous appelez le baluchonnage, c'est ça?
C'est ça. En fait, le baluchonnage, c'est l'expression du Québec, mais qui est seulement pour la maladie d'Alzheimer. Donc nous, on l'a transposé en relayage en France. C'est plutôt une bonne idée, mais encore une fois, ce ne sont pas des solutions de répit d'urgence qui parfois peuvent être nécessaires. Il faut prendre un petit peu de temps pour que le patient apprenne à connaître la personne qui va venir à son domicile. Et j'aimerais juste revenir 30 secondes sur ce qu'on a dit auparavant. Pour moi, une chose fondamentale dont on n'a pas parlé du tout, que ce soit avec les patients qui parfois peuvent se sentir comme une charge, comme cette dame qui disait « mon mari s'est sacrifié », ou des aidants qui vont trop loin, ça arrive surtout parce qu'il y a un vrai manque de communication. Je l'ai beaucoup vu au sein de ces familles, c'est très difficile pour un patient de parler à l'aidant de manière franche de sa situation, et c'est tout aussi difficile pour l'aidant de parler de manière franche de ce qu'il vit au patient. Et de même, pour eux deux, de parler aux professionnels de santé de la façon dont ils vivent cette situation.
Parce que l'on a entendu des témoignages pleins de cœur, pleins d'émotions, mais il y a des fois du ressentiment et de la colère.
Exactement. Et ça arrive beaucoup quand les parties ne discutent pas entre elles de manière ouverte. Et c'est souvent ce qui manque. Des discussions à cœur ouvert, voilà. Moi, je vis les choses de telle manière.
Certaines maladies l'empêchent.
Certaines maladies l'empêchent. Heureusement, pas la majorité. C'est vrai que dans le cas de la maladie d'Alzheimer, on ne peut pas en parler de manière franche. Mais dans le cas de l'épilepsie ou dans le cas d'autres maladies chroniques ou même du vieillissement, on peut tout à fait en discuter. Et ça permet de diminuer aussi ce sentiment de culpabilité, même pour une entrée en EHPAD. On voit souvent des patients qui arrivent en EHPAD de manière assez brutale ou en tout cas non concertée, qui n'avaient pas envie d'y aller. Ça passe beaucoup mieux quand ce sont des discussions qui arrivent mois après mois, de manière régulière et où les sentiments sont partagés.
Il nous reste environ une minute. RFI Radio International, justement, dans votre livre, docteur Rossineau, vous citez des exemples à l'étranger, des choses qui ont fait leur preuve. C'est peut-être des petits exemples, mais c'est déjà quelque chose d'assez intéressant. Taïwan et puis l'Italie.
Tout à fait. J'ai trouvé le modèle de Taïwan assez fantastique et les centres de ressources pour aidants qui existent un peu partout sur leur territoire. Ce sont des centres où les aidants vont avoir une évaluation complète médico-sociale, vont avoir accès à des psychologues, à un parcours personnalisé dans tout le système de santé, mais aussi à de la formation aux gestes du quotidien à faire chez eux et même à de la médiation familiale pour aider justement à gérer les cas un peu compliqués où il y a plusieurs frères et sœurs, où il y a plusieurs membres de la famille qui attendent peut-être beaucoup d'un seul aidant pour répartir un petit peu mieux la tâche. Ce sont des modèles qui sont très avancés et que j'aimerais voir mis en place un peu partout dans le monde.
À titre d'exemple donc, merci infiniment à tous les deux pour vos témoignages, merci. Votre expertise, d'avoir répondu à cette invitation de Priorité Santé. Pascal Janot, président fondateur de la première maison des aidants et directeur du centre d'information et de formation des aidants. Merci beaucoup à vous, docteur Hélène Rossineau. Je rappelle le titre de ce livre publié aux éditions de l'Observatoire, « Aidant, c'est invisible ». On parle tout de suite sport et santé dans Priorité Santé avec nous le docteur Jean-Marc Sen. Jean-Marc, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Alors souvent, quand on fait une activité physique ou sportive en ville, on se pose la question, quand il y a de la pollution, quand le niveau de pollution est élevé, est-ce que ça vaut vraiment la peine? On va d'abord commencer, si vous le voulez bien Jean-Marc, en évaluant justement ce que sont ces risques de la pollution pour notre santé, risques à la fois de la pollution et en même temps de la sédentarité.
Mais oui, c'est une question tout à fait légitime parce que à la fois il y a ce risque d'être sédentaire et ça on sait que évidemment il y a des risques pour la santé, les risques cardiovasculaires, le risque de cancer, de diabète, de démence, tout ça est augmenté lorsque l'on est sédentaire et c'est bien connu. Et puis face à ça, il y a le risque sanitaire de la pollution. Et là, on sait que sur le plan cérébraux et cardiovasculaires, il existe des problématiques. Sur le plan respiratoire aussi, avec des infections des voies respiratoires qui peuvent être augmentées. Mais aussi la prématurité. Là, on sait que ça augmente le risque de prématurité et de petits poids de naissance. Et donc là, en quelque sorte, on peut dire que c'est un peu choisir entre la peste et le choléra, hein, finalement.
Alors, si on se pose la question, justement, est-ce qu'il y a des études scientifiques qui peuvent nous renseigner?
Eh oui, il y en a plusieurs. Et plusieurs études, d'ailleurs, qui vont plutôt dans le même sens, en disant qu'il y a un véritable bénéfice à faire de l'activité physique. Par exemple, l'Institut de veille sanitaire a montré que faire du vélo a donné un bénéfice largement supérieur au risque associé à l'inhalation de polluants. Et d'accidents de la route, parce que quand on fait du vélo, il y a aussi ce risque qui existe. Alors, par exemple, l'étude montrait qu'on pouvait épargner 12 vies en faisant de l'activité physique régulière contre une augmentation de 0,16 décès liés à l'inhalation des polluants et aux accidents de la route. La deuxième chose, c'est que la pratique du vélo, eh bien, en plus d'augmenter cet aspect de santé, réduit bien évidemment la pollution. Ça réduit la pollution parce que, évidemment, on utilise moins les voitures. La deuxième étude, c'est une étude américaine qui est beaucoup plus ancienne, qui date du début des années 2000 et qui montrait que le fait de promouvoir l'activité physique, eh bien, réduisait l'encombrement de la circulation et donc la pollution. Il faut se rappeler que dans cette étude, 90% des déplacements étaient réalisés en automobile et que près de la moitié de ces déplacements étaient des distances courtes, c'est-à-dire moins de 2 km, ce qui est tout à fait adapté à la marche ou au vélo. C'est-à-dire quand on fait moins de 10 km, on peut marcher ou on peut faire du vélo sans aucun problème. Et donc, tout cela nous fait dire que faire de l'activité physique, c'est bon à la fois pour la santé, c'est bon également pour la pollution urbaine, c'est donc bon pour tout le monde de faire de l'activité physique.
On a envie de vous répondre, Jean-Marc, malgré tout, quand on fait du sport en ville avec la pollution, pendant ces pics de pollution, on se sent mal, on se sent gêné, comment on l'explique?
Eh bien oui, parce qu'il y a des sujets qui sont plus sensibles, à la pollution, aux microparticules notamment. Et là, on a des symptômes, des gènes respiratoires ou des atteintes cardiaques à type d'essoufflement, de sifflement ou de palpitations qui peuvent apparaître. Lorsqu'on fait du sport, eh ben, on augmente notre ventilation. On augmente jusqu'à 7 à 10 fois le débit ventilatoire d'air qui passe dans les poumons. Et donc, on augmente 7 à 10 fois les particules polluantes qui vont venir irriter les l'arbre bronchique notamment. Alors, on peut, dans ces cas-là, essayer de faire quelques conseils. Lorsqu'on a un pic de pollution, premièrement, on évite de faire des activités physiques relativement intenses pour éviter justement cette rentrée des microparticules. Si on peut, on reporte les activités qui demandent plus d'efforts. On essaye d'éviter de faire ces activités sur les grands axes routiers. Hein. On va éviter, là où passent les voitures, de faire ces activités. Et puis, on évite aussi de sortir durant l'après-midi où c'est là que le taux de pollution en microparticules est le plus élevé durant la journée.
Et docteur Sen, vous pouvez nous apporter d'autres conseils encore?
Alors, oui, il faudra distinguer en tout cas deux grandes populations. Il y a les populations qui sont vulnérables, c'est les femmes enceintes, les nourrissons, les personnes qui sont âgées de plus de 65 ans, les personnes asthmatiques, cardiaques, où là vraiment il faut essayer de faire la plus grande précaution aux moindres symptômes. Ça c'est vraiment important. Pour toutes les autres personnes, eh ben, on peut conseiller d'abord, bon, masque ou pas masque, ça change pas grand-chose. Il n'y a pas tellement d'études qui démontrent l'utilité des masques. Mais on peut essayer de faire, en tout cas, s'il faut faire de l'exercice physique, c'est plutôt dans un environnement vert, hein, un parc en hauteur, bien ventilé. Il faut éviter, bien évidemment, les heures de pointe. Il faut savoir que la pollution, notamment en microparticules, diminue lorsqu'il pleut ou lorsqu'il vente. Et puis, ne pas hésiter à consulter les sites météo et les sites de qualité de l'air de votre ville, parce que ça vous permet justement de faire une activité lorsque les pics sont moindres, ou en tout cas lorsqu'il y a un petit peu moins de pollution. Donc voilà, j'espère qu'avec tous ces conseils, nos auditeurs pourront respirer et faire leur sport avec le plus grand plaisir et sans cracher leurs poumons.
Merci beaucoup, docteur Sen. Je rappelle que vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. À très bientôt dans Priorité Santé. Votre émission qui touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui, chaque jour, fabrique, réalise Priorité Santé. Aujourd'hui, Ophélie Lassen, Baptiste Madinier, Didier Bleu, Didier Chérouse. Demain, nous allons parler des fausses couches. On attend vos témoignages, on attend vos messages sur la page Facebook de l'émission. N'hésitez pas également à nous joindre à notre numéro 33 84 22 75 75. Priorité santé, 9h10 temps universel tous les matins de la semaine. À demain, d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance, qui garantit à tous les parents du monde la scolarité de leurs enfants, quoi qu'il arrive. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.